Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Opondé.
Sommet de haut niveau, c'est jeudi à Nairobi entre le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la RDC et le Burundi. Au menu, la question de la rébellion du M23. Déjeuner d'affaires hier sur l'état des lieux du processus électoral initié par la CINCO et l'ECC. Ces échanges entre les acteurs impliqués et les délégués de la société civile leur a permis d'être informés sur l'évolution de ces processus. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre de la fonction publique, est notre invité. Il expliquera les étapes franchies par le gouvernement pour aboutir à l'augmentation de 30% du salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Bonjour à tous. Le sort de la rébellion du M23 pourrait être connu ce jeudi à la suite du sommet qui va se tenir à Nairobi entre le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la RDC et le Burundi. C'est à l'issue de ce sommet de haut niveau que les options seront levées sur la suite à donner sur la question du M23 selon une source sécuritaire. Cette information est confirmée par Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la RDC. Sur sa page Twitter, elle écrit, je cite, une nouvelle page de l'approche sécuritaire dans la région pointe à l'horizon. Sommet à 5, ce 21 avril à Nairobi, option cruciale attendue dans la perspective de la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Fin de citation. Les besoins humanitaires en RDC sont à un niveau très élevé du fait notamment de la situation sécuritaire dans l'Est et font de la crise humanitaire de ces pays l'une des plus complexes du monde et celle qui a duré le plus longtemps, a déclaré Bruno Le Marquis au cours de la conférence des Nations Unies d'hier mercredi à Kinshasa. Ainsi, le nouveau coordonnateur humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo préconise de mettre le cap autant sur les causes que sur les symptômes dans la réponse à cette crise. Les propos de Bruno Le Marquis, sélectionné par Honoré Missengakalala.
C'est toujours essentiel de travailler collectivement sur les causes les plus profondes, les causes structurelles que personnellement j'appelle les nœuds gordiens, c'est-à-dire qu'est-ce qui génère l'essentiel des symptômes. Je viens juste d'arriver dans le pays, mais intuitivement on peut penser qu'il y a beaucoup lié à la question foncière, beaucoup lié à la question de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles en particulier. Donc ces nœuds gordiens sont souvent la source de tensions, de conflits, d'insécurité et de déficits de développement. Et donc c'est important dans les approches de tous les partenaires de trouver le bon équilibre entre le travail sur les symptômes qui comprennent la partie humanitaire, l'appui sécuritaire, etc., mais aussi le travail sur les causes structurelles puisque si les problèmes ne sont pas résolus, les mêmes symptômes vont continuer à réapparaître.
Par ailleurs, Bruno Le Marquis a annoncé le plaidoyer que lui et le ministre congolais des Affaires sociales et humanitaires vont conjointement mener dans les prochaines semaines auprès d'un certain nombre des pays donateurs occidentaux et à l'ONU pour que la RDC reste dans leur agenda malgré la multiplication d'autres crises à travers le monde, notamment celle de l'Ukraine. Direction le Kasaï central où une pirogue a fait naufrage sur la rivière Louboudi dans les secteurs de Lusongé, dans les territoires de Demba. Sur 15 personnes à bord, 6 personnes sont portées disparues et 9 ont été retrouvées, a indiqué hier mercredi à Radio Kapi l'administrateur des territoires. Revenant sur les causes de cet accident, Christophe Sakaji explique que des femmes qui revenaient des champs ont été surprises par un vent violent qui a renversé la pirogue dans laquelle elle s'est trouvée. Les recherches se poursuivent pour retrouver les corps disparus, indique-t-il. Christophe Sakaji est au téléphone de François Kadima.
Il y a eu les mamans qui vont aussi souvent au champ, des pirogues qui sont pour le transport des mamans qui vont au champ. On a pris 15 mamans dans la même pirogue. Il y a eu un vent violent qui les a entraînées. La pirogue a chaviré. Il y a eu 6 morts et 9 qu'on a récupérés. Mais les 6 morts-là, on ne les a pas encore retrouvés. Il y a une équipe qui est dépêchée là-bas. Les agents de l'ordre qui sont en train de rechercher pour qu'on puisse retrouver les corps des 6 mamans qui se sont noyées là. Ça s'est passé dans le secteur de Lusongé. Précisément, c'était un samedi. Il y a eu l'inondation de la rivière Lubuji et aussi l'utilisation adhésive de pirogues qu'on fabrique moyennant le poids des personnes. Et voyez, maintenant, les victimes sont là.
L'Église catholique et protestante travaille pour des élections inclusives et apaisées devant se tenir dans le délai constitutionnel. C'est dans cet objectif que les commissions justice et paix de la CENCO et de l'ECC ont organisé hier mercredi à Kinshasa un déjeuner d'affaires sur l'état des lieux du processus électoral. L'échange entre les acteurs impliqués dans ces processus et les délégués de la société civile leur a permis d'être informés de ce qui est déjà fait ou en train d'être fait et ce qui reste encore à accomplir. Reportage de Jeff Ngoy.
Membre de la plénière de la centrale électorale, Gérard Bissambou présente l'état d'avancement des opérations électorales.
Voici ce qui a été fait. D'abord, il était important de prendre possession de l'institution, l'administration électorale. On a élaboré le plan d'encaissement des élections, plan logistique. Et nous en sommes sortis aussi avec un programme de sensibilisation électorale. Le 3 février, nous avons eu à publier la feuille de route.
Selon le représentant de l'Office national d'identification de la population, 70 millions de dollars sont déjà disponibles pour réaliser cette opération dont les travaux sont en cours.
L'ONU ne sera jamais dans le chemin de rajouter une minute ou une seconde à la série. Et donc, il ne pourra jamais déranger le calendrier de la série.
Monseigneur Donatien Chollet évoque l'intérêt de cet échange entre les parties prenantes.
Nous espérons que ces échanges feront le lit d'une dynamique nationale qui va amener à un minimum de consensus qu'il faut.
Mais l'ONIP ne communique pas sur le chronogramme de l'opération d'identification des Congolais. Est-ce qu'on est toujours dans le délai.
Donc il y a un flou qu'il faut clarifier.
Ce que pense l'ECC pour éviter le glissement, son porte-parole Eric Senga.
Une seule façon intelligible d'éviter le glissement, je pense que c'est que nous nous mettions tous ensemble, mais pour y parvenir, nous devons avoir des informations fiables, pas contradictoires.
Dans le cadre de cette rencontre organisée par la Commission justice et paix de l'Église catholique et celle de l'Église du Christ au Congo, les organisateurs veulent, à travers ces assises, obtenir des informations crédibles et fiables auprès des institutions intervenant dans l'organisation des scrutins. Convié à cet échange, en sa qualité de président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo a rassuré que la Chambre haute du Parlement, l'un des organes intervenant dans le processus électoral à travers la production législative, va examiner rigoureusement la loi électorale. Le président du Sénat a soutenu que la Chambre haute du Parlement congolais va jouer sa partition en toute responsabilité dans le but de favoriser la paix et la cohésion nationale pendant et après les élections de 2023. Modeste Baati est au micro de Michel Kifindangoy.
Je voudrais vous dire sincèrement que le Sénat, qui est la deuxième chambre, et donc qui est concerné par les réformes qui vont être engagées, jouera sa partition. Et nous allons faire de notre mieux que, pour que lorsque les matières nous arrivent de la Chambre sœur, nous puissions les traiter rapidement, mais en toute responsabilité aussi. Parce que le Sénat, dans son rôle de seconde lecture, doit veiller sur la stabilité des institutions, sur la paix et les équilibres fondamentaux.
Notez qu'à l'Assemblée nationale, le débat général sur la loi électorale prévue pour hier mercredi a été reporté à vendredi. Pour le bureau de l'Assemblée nationale, ce report a été motivé par le souci de trouver un large consensus autour de cette proposition de loi. Cependant, le Front commun pour le Congo s'est dit déterminé à faire déchoir Christophe Mboso par une pétition qui a déjà recueilli plus de 140 signatures. Pour le FCC, le report du débat a aussi servi au président de l'Assemblée nationale à empêcher le dépôt de la pétition. Et pendant ce temps, les femmes politiques du Nord Kivu disent soutenir le débat sur la modification de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Dans une déclaration faite mardi à Goma, ces femmes saluent la proposition de loi portant révision de la loi électorale initiée par les députés nationaux Jacques Joly, membre de la plateforme politique G13. Pour l'une d'elles, l'ancienne loi portait des germes d'exclusion d'une manière générale, mais aussi une forme de discrimination à l'égard des femmes et des personnes vivant avec handicap. Victorine Mouima salue les modifications proposées, entre autres la suppression du seuil électoral qui a constitué un blocage pour plusieurs Congolais. Notez que ces femmes politiques du Nord Kivu sont regroupées dans une plateforme dénommée « Femmes du réseau potentiellement engagées pour la performance aux échéances électorales ». Dans le Sankuru, l'Assemblée provinciale pointe du doigt le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité et d'être à la base, par son ingérence, de la stabilisation, de la déstabilisation de l'administration publique en province. Cette déclaration a été faite le week-end dernier au cours de la séance plénière consacrée à l'examen de la question d'actualité avec débat adressé au gouverneur de province intérimaire autour de la multiplication des cas d'insécurité. Contacté, le vice-premier ministre de l'Intérieur affirme qu'il agit par rapport à ses attributions et non pour déstabiliser la province du Sankuru. Des explications avec Esther Dalafina.
Au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée provinciale n'est pas allé par le dos de la cuillère. Benoît Olamba a énuméré plusieurs cas d'insécurité causés, d'après lui, par les acteurs politiques vivant à Kinshasa.
Le manque de collaboration entre nos deux institutions politiques et l'appui qu'ils bénéficiaient de certaines autorités au niveau national.
Benoît Olamba pointe du doigt le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur d'être à la base de la déstabilisation de l'administration publique en province.
De la déstabilisation de l'administration publique en province par les interférences inopportunes du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui gère la province du Sankuru aujourd'hui. On doit nous le dire clairement, si le vice-premier ministre gère par délégation la province du Sankuru.
Contacté, Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, rejette ces allégations.
Par rapport à mes attributions.
Ce n'est qu'un rappel que j'ai eu à faire. André Olamba, Chabilou et moi, qui est en train de déstabiliser, je déstabilise la province en demandant qu'on ne puisse pas bouger les agents de l'État. C'est ça la déstabilisation.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Vous l'avez suivi sur nos antennes, le gouvernement annonce l'augmentation de 30% du salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre de la fonction publique explique les raisons qui ont amené le gouvernement à réagir sur l'une des revendications des agents. Jean-Pierre Liao est au micro de J.R. Lungembo.
La raison qui nous a poussé finalement à procéder à la signature d'un avenant avec l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, pour échelonner en quelque sorte l'augmentation qui avait été déjà calée lors des accords de Bibois, c'est la décision du président de la République. Parce que le président de la République nous a instruit de pouvoir étendre cette mesure à tout le personnel militaire, donc de forces armées et de la police. Donc quand je parle de 30%, les 30% ne concernent pas seulement que le personnel civil. C'est vrai, les agents, les fonctionnaires de l'État, mais aussi l'ensemble de militaires et des policiers de notre pays. Donc, pour ce mois d'avril, tout le personnel civil et militaire, si vous voulez, seront concernés par cette augmentation. Et c'est pour cette raison que, avec le ministre du Budget et des Finances, on pensait qu'il était nécessaire de l'échelonner. Devoir m'avait été assigné par le Premier ministre, pouvoir en parler avec nos partenaires sociaux. C'est ce qui a été fait. Pour tous les agents publics de l'État, tous les fonctionnaires, les agents publics de carrière.
Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, est l'invité de ce journal. Vous le suivrez juste après l'actualité internationale. Mais tout d'abord, sachez que l'inspection générale des finances et l'autorité de régulation de contrôle des assurances se mettent d'accord pour mener une mission conjointe afin d'imposer le respect de la loi sur les assurances. Les deux institutions veulent particulièrement mettre un accent sur les volets du paiement de la prime d'assurance en République démocratique du Congo. La mission conjointe ARCA-IGF veut lutter non seulement contre l'évasion des primes d'assurance, mais aussi de rappeler l'application stricte de l'article 286 de la loi du 17 mars 2015 portant code des assurances. Radio Capi vous propose ainsi une série de reportages sur les assurances en RDC. Pour commencer, Daniel Tambizoni nous explique ce que sont les assurances et ce que dit l'article 286 du code des assurances.
Cet article stipule, je cite, qu'il est formellement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire congolais ou auprès d'une entreprise non agréée par l'ARCA pour réaliser des opérations d'assurance en République démocratique du Congo. Fin de citation. Quant à l'assurance elle-même, et selon le dictionnaire économique et financier, c'est une opération par laquelle une personne appelée assureur s'engage à réaliser une prestation au profit d'un autre individu appelé assuré lorsque survient un risque, tout ceci moyennant le paiement d'une cotisation, d'une prime. Ainsi, le risque constitue l'objet de l'assurance. Un assuré, personne physique ou morale, contracte une assurance pour se prémunir contre les événements dommageables de la vie, comme la maladie, l'incendie, le vol, le décès, ou contre les risques liés à certains objets qu'il possède, comme automobile, habitation et bien d'autres. En cas de survenance d'un risque, l'assureur s'oblige à verser une prestation sous forme d'argent, soit à l'assuré, soit à un tiers, soit au bénéficiaire dans le cadre d'une assurance vie. En contrepartie de cette prestation, l'assuré verse une prime ou une cotisation à l'assureur.
Actualité internationale. Au Niger, le ministre de la Communication, Mahamadou Zada, écroué pour détournement des fonds, entendu mardi par un juge d'instruction du pôle économique et financier, il a été placé sous mandat de dépôt pour détournement d'argent avant son entrée au gouvernement. C'est la première fois au Niger qu'un ministre en exercice est incarcéré.
L'invité.
Comme annoncé, notre invité est Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Il explique les étapes franchies par le gouvernement pour aboutir à l'augmentation de 30% du salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre précise que cette révision à la hausse concerne tous les agents et fonctionnaires de carrière. Il affirme que cette augmentation interviendra en deux paliers à partir de ce mois d'avril. Jean-Pierre Liao s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui expliquerait concrètement un tel bond des 30%? Comment on en est arrivé là?
Et la raison qui nous a poussé finalement à procéder à la signature d'un avenant avec l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, pour échelonner en quelque sorte l'augmentation qui avait été déjà calée lors des accords de Biboua, c'est la décision du président de la République. Parce que le président de la République nous a instruit de pouvoir étendre cette mesure à tout le personnel militaire, donc de forces armées et de la police. Donc je parle de 30%. Les 30% ne concernent pas seulement que le personnel civil. C'est vrai, les agents, les fonctionnaires de l'État, mais aussi l'ensemble de militaires et des policiers de notre pays. Donc, pour ce mois d'avril, tout le personnel civil et militaire seront concernés par cette augmentation. Et c'est pour cette raison que, avec le ministre du Budget et des Finances, on pensait qu'il était nécessaire de l'échelonner. Devoir m'avait été assigné par le Premier ministre, pouvoir en parler avec nos partenaires sociaux. C'est ce qui a été fait.
Pour tous les agents publics de l'État, tous les fonctionnaires, les agents publics de carrière.
Alors, ceci est donc l'une des solutions parmi des revendications formulées par les agents et fonctionnaires, si je comprends bien, de l'État. Alors, à quand interviendront des réponses aux autres revendications?
Écoutez, nous le faisons de manière progressive. Parce que, concomitamment à ces efforts d'amélioration, eh bien, nous mettons aussi sur la table les exigences pour assainir les fichiers des agents. Nous devons absolument maîtriser les effectifs des agents publics de l'État dans notre pays, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous pensons que faille absolument assainir les fichiers car des fonctionnaires, même fictifs, qui n'existent que de nom. Et nous en avons comme ça dénombré plus de 112 000, monsieur Lugembo. 112 000 agents qui posent problème au sein de notre administration. Puis arrive la problématique de la retraite. Nous en avons 300 000 à peu près qui sont éligibles.
Donc il faut attendre tout ça pour que d'autres revendications puissent trouver solution.
Non, je dis que nous faisons le tout de manière concomitante et progressive.
Alors si ce n'est pas un secret, d'où provient exactement les fonds qui seront disponibles?
C'est le Trésor public qui prend en charge globalement, totalement.
Le budget?
Le budget, bien sûr. Le budget, mais tout était prévu. Je vous ai parlé de conclusion de travaux de Biboua. Les budgets 2022 portent justement toutes ces améliorations.
Alors, on sait que les médecins, les magistrats, les enseignants et également les professeurs qui ont manifesté des grognes tout récemment seront-ils pris en compte pendant ces trimestres?
À ce qui concerne, par exemple, le rabattement de l'IPR, ils ont tous été pris en compte. Magistrats, professeurs, assistants, chefs de travaux, infirmiers, tout ce que vous voulez, toutes les catégories d'agents publics. Pour les salaires de base, ça concerne tout le monde, évidemment.
En termes clairs, comment se présente la tension salariale à partir de ce mois d'avril qui connaîtra donc cette augmentation?
Je ne veux pas me lancer au jeu des chiffres, monsieur Le Guindo, tout simplement, parce que ça créerait une confusion dans l'opinion. Ce que nous avons annoncé ne concerne que la partie base. Alors maintenant, il y a la partie prime. Alors, s'il faut mélanger le tout, ça risque de créer de la confusion, de l'amalgame. Parce que si je dis que, par exemple, à l'occurrence, un huissier à qui on payait 165 000 passera désormais à 10 à 40 000, les gens peuvent imaginer que ce sont les seules ressources. Mais ces huissiers, à part ces salaires de base, disposent aussi d'une prime. Je crois que les discussions sont en cours. Nous sommes en train de vouloir revoir les cadres juridiques, d'abord général, ensuite après, les règlements d'administration qui portent notamment certains avantages sociaux qui, encore aujourd'hui, sont calculés en zaïre monnaie. Vous vous rendez compte qu'il y a des règlements d'administration qui datent d'il y a 40 ans et nous sommes en pleine réforme pour essayer de mettre à jour tous ces textes. Qui,
vous en tirez les succès.
Chacun va prendre ça comme il veut, mais moi je pense que nous avons trouvé des chantiers ouverts, inachevés ou même difficilement achevables, mais nous sommes en train de prendre des conditions pour essayer effectivement de rendre cela possible et de réajuster ce qui est à réajuster, mais en réalité de réaffirmer la volonté de faire de l'agent public congolais un agent, si vous voulez, un acteur de développement. Qu'on ne regarde pas un fonctionnaire seulement comme un numéro matricule et un salaire, mais qu'on puisse le regarder comme une ressource humaine capable d'aider l'État à créer de la richesse, d'aider l'État à offrir des services publics de qualité aux Congolaises et aux Congolais.
Monsieur le ministre, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Écoutez, c'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Il a été coordonné par Alain Hirung sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci de l'avoir suivi.